nouvelle heure.
Une nouvelle heure.
Une nouvelle heure.
Une nouvelle heure sur IDFM Radio. Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+. Vous écoutez IDFM Radio, il est 16h. Sabrina avec vous pour le carré des artistes. Béor, bonjour.
Bonjour.
T'es notre invité du jour.
Merci pour l'invitation.
Merci à toi d'être venu. Tu es venu accompagné d'Eden.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Pour te soutenir, mais
exactement.
Aussi pour alimenter aussi cette interview, puisque vous êtes liés. On va comprendre un petit peu plus tard dans l'émission comment vous êtes liés. Béor, tu es réalisateur, producteur de musique, tu es photographe, tu es fondateur de la LDA, les Disparus Anonymes. C'est une brigade citoyenne qui œuvre pour retrouver des personnes disparues, des personnes disparues, oubliées.
Exactement.
Et on va en parler. Tu es acteur aussi dans le milieu associatif,
oui.
Donc je l'ai dit, par la LDA, mais aussi par une autre association qui aide à l'inclusion par la musique, le cinéma, l'art en général.
Exactement,
on peut dire.
Ouais. D'ailleurs.
Et donc on va en parler. J'espère qu'une heure va nous suffire pour couvrir
aussi, hein.
Tout ça, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais ouais. En tout cas, pas de panique, si une heure ne suffit pas, bah, tu reviendras parce que tu es ici
avec
chez toi.
Plaisir. Avec un grand plaisir.
Béor, passage obligé de l'émission, est-ce que déjà tu peux nous dire qui est Béor?
Alors du coup, je m'appelle Béor, j'ai 39 ans, je suis papa. Je suis réalisateur de métier et photographe pro. Donc je suis aussi un infographiste et je suis aussi propriétaire de médias. Ça depuis quelques temps de ça.
Et oui, on va en parler. Tu es auteur aussi. Pardon, je te coupe.
Oui,
tu es auteur, Tu es auteur du livre Alerte Disparition qui est paru là au mois de mai.
Le 25 mai, ouais. Le 25 mai, mon livre est sorti chez Michel Lafon. Donc du coup, ils sont venus me chercher pour écrire ce livre et une collaboration qui a duré pendant pratiquement 3 ans. Et du coup... c'est une sortie de livre qui m'a fait quelque chose, qui m'a fait quand même pas mal d'effets, parce que je suis aussi fils d'un écrivain. Mon père, depuis qu'il est à sa retraite, il a écrit 7 livres en tout, et du coup là, le fait est que moi je sorte un livre derrière lui, je me dis
qu'il y avait de la pression.
Exactement, et c'est aussi un petit clin d'œil aussi à tous les profs qui ont pas cru en moi aussi quand j'étais plus jeune, et c'est un petit clin d'œil pour eux aussi, quoi. Donc c'est pour leur dire. Dans le cul manu, quoi.
Béor, on peut dire aussi que c'est une belle... là où tu es, c'est une belle revanche aussi. Tu arrives ici, t'as 10 ans.
Exactement. J'arrive en France, j'avais 10 ans.
Un accent prononcé.
Un accent très prononcé. En plus, je suis le fils d'un monsieur qui... déjà, je suis l'arrière-petit-fils de guerriers algériens qui ont combattu pour la France et contre la France. Et après, ça a été quelque chose qui est devenu héréditaire dans ma famille, où mon père aussi a combattu le terrorisme en Algérie. Ça lui a valu plusieurs tentatives d'assassinat, plusieurs attentats, et auxquels Dieu merci, il a échappé. Et du coup, nous, qu'on a été visés aussi, et on en a survécu grâce à ma mère. Et à ce moment-là, la prédiction de nous ramener en France, malgré nous, quoi. D'ailleurs, moi, quand on est venu en France, mon père, il m'a dit, on part en vacances pendant 2 semaines, on revient.
Il t'a menti. Il t'a fait un guet-apens.
Ah, laisse tomber. On arrive en France, c'était en 94, on est reparti en Algérie en 2001. Donc, c'est pour te dire que les vacances, elles ont duré très longtemps. Malgré moi, quoi. Donc,
c'était pas vraiment des vacances.
J'ai été déraciné, on va dire. Et ça m'a pas apporté du bien dans ma vie, quoi. Parce que, comme je le dis dans mon livre, quand j'étais jeune, quand t'es en Algérie, tu vois à la télévision la France de d'Aznavour et de Coluche, quoi, tu vois. Et quand t'arrives en France, t'arrives à la France de Le Pen et Maigret à l'époque. Et je peux te dire qu'il y a un choc, c'est un choc des cultures qui est énorme. Et là aussi, pour la première fois, je vis ce qu'est le racisme aussi. Parce que moi, j'ai pas connu ça. Quand tu vis en Algérie, t'es entre Algériens, quoi. Donc, tu vis pas trop ça. Mais quand t'arrives en France et que tu te manges le racisme, de plein fouet,
à
de par ta communauté,
en plus,
en plus de par ma communauté parce que ma communauté, tous les immigrés qui sont nés en France et qui sont d'ici, ça a été tout de suite, t'es beaucoup de moqueries sur le côté, t'es un blédard, etc. Donc du coup, j'ai été rejeté par tout le monde. Et donc ça a été un travail, on va dire, de longue haleine, quoi. Mais après, bon, j'avais déjà les armes qu'il fallait pour combattre tout ça déjà.
Et donc c'est pour ça que je dis, c'est quand même, quand tu fais le point de tout ça aujourd'hui, d'où t'es parti et où tu es aujourd'hui, c'est quand même, c'est beau.
On va dire que c'est beau.
C'est beau malgré tout ce que t'as traversé, on va...
De toute façon, c'est beau à partir du moment où tu trouves une certaine fierté dans ce que tu fais. Je pense qu'à partir de là, après, quand t'es pas très communicatif avec l'un de tes parents, surtout moi, mon père, Mon père, quand il n'y a pas très longtemps, il m'a dit « je suis fier de toi » et ça a été un choc pour moi. Parce que moi, mon père, on a cette relation de père-fils, mais...
Puis les pères algériens...
Voilà, et
on
voilà.
Sait,
après, mon père, il est de formation, de métier, il est psychanalyste, donc du coup, il a cette communication avec les autres, mais moins avec moi. Donc, il est très dans la compréhension, très diplomate, très discussion, mais pas avec moi. Mais quand ton père te dit, je suis fier de toi, c'est, tu vois,
ça t'a percuté.
Bah, ça m'a fait du bien surtout.
Ouais.
J'attendais pas ça.
Moi, j'attendais. Tu savais qu'il était fier de toi quand même.
Non, parce que je l'ai déçu tellement de fois. Tu vois, je l'ai déçu tellement de fois quand j'étais plus jeune. Et encore, heureusement qu'il sait pas tout ce que j'ai fait.
Ouais, ouais.
Tu vois, là il a pris certaines choses dans mon livre parce qu'il l'a lu.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de choses dont il est pas au courant. Et déjà les trucs que j'ai, toutes les conneries que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Il y a des trucs sur lesquels il était au courant parce que elle bouche à oreille. Hein. Je suis pas un gosse qui a fait. Qui a fait 30 gardes à vue, jamais parti en prison ni rien du tout parce que j'ai traîné avec les bonnes personnes, on va dire, ou j'ai été plus intelligent que certains, mais il savait que j'avais des conneries et donc toutes ces déceptions que j'ai eues toute ma vie à ses yeux, là me dire je suis fier de toi, voilà quoi, tu vois, c'est un accomplissement.
Tu peux mourir tranquille ou pas?
Ouais, non, moi je peux crever tranquille, bien sûr.
Tu peux mourir tranquille. Alors, justement, donc je l'ai dit, j'ai énuméré un peu toutes tes casquettes de producteur de musique, de réalisateur, photographe, tu fais de l'acting aussi. Par quoi t'as commencé et qu'est-ce qui t'a finalement mis là-dedans?
Bah, ce qui m'a mis là-dedans, j'ai toujours fonctionné d'une certaine façon. C'est-à-dire que chaque fois qu'on m'a fermé une porte, je l'ai ouvert moi-même. Ça veut dire que quand j'étais plus jeune et je faisais du hip-hop, j'étais vraiment très jeune, du coup, je faisais du hip-hop, on m'a fermé énormément de portes. Donc du coup, ce que je faisais, moi, pour ma génération, ceux qui ont connu ça à l'époque, on n'avait pas de studio d'enregistrement, on n'avait pas tout ça. On prenait juste un poste cassette, on mettait un écouteur, c'est même pas un micro, parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens de prendre un micro, quoi. On mettait un écouteur dans la fente du micro, on mettait sur rec, et on enregistrait notre morceau comme ça avec... un autre son en arrière, tu vois.
C'était vrai, c'était artisanal.
C'était artisanal.
Edine, tu rigoles, ouais, ça ouais, te rappelle des souvenirs.
Je connais tout à fait cette situation.
Voilà, c'était artisanal et en plus, même pour vendre nos scuds à l'époque, c'était vraiment copié qu'on avait un poste avec deux fentes. Donc du coup, il fallait mettre la cassette qu'on avait enregistrée, la cassette d'à côté, tu vois, c'était vraiment très
système
artisanal.
D.
À l'époque, c'était ça, ouais. Et ça fonctionnait. En plus, on faisait Tour de France, on faisait tous les festivals de France, on faisait tout. Donc du coup, arrivé à ce moment, je me suis dit qu'il fallait absolument que je sois indépendant. Et c'est là qu'on m'a offert une caméra. J'avais un cousin à moi, Péasonam, qui est décédé maintenant, qui était acteur à l'époque, et qui m'avait offert une caméra qui lui-même avait carrément volé sur un tournage, tu vois.
Une caméra pro.
Ouais. Et c'est là que je savais même pas l'utiliser, pour te dire, au début, tu vois. Donc elle avait voulu vraiment. Et à l'époque, il fallait partir dans des bibliothèques pour aller prendre des
C'est les tutos et
à l'époque il n'y avait pas Google à l'époque, tu vois, donc il fallait chercher les livres qui étaient super épais,
pages.
Voilà, et ça il fallait se taper toutes les papeteries pour voir si tu pouvais trouver le bon manuel, quoi. Et j'ai commencé à faire mes premiers trucs comme ça, et même pour te dire, carrément pour les montages, on coupait carrément la bande on la scotchait à l'époque.
Ouais,
et à l'époque, on avait la bande, donc on savait quand ça s'arrêtait. Et on coupait avec des ciseaux, on mettait du scotch, c'était du rafistolage. Une fois que la bande était entièrement bonne, on faisait la copie tout de suite pour avoir le rendu final. Donc c'est pour te dire à quel point c'était totalement différent. Mais à chaque fois qu'on m'a empêché de faire quelque chose, bah, j'ai fait en sorte derrière d'apprendre à le faire et le faire moi-même. Donc quand on m'a refusé l'accès à des tournages, bah, je suis devenu réalisateur, j'ai tourné mes propres trucs. Carrément, j'ai tourné dedans aussi. Quand on m'a fermé les portes sur la musique, bah, je suis devenu producteur très rapidement. J'ai ouvert mon premier label très très tôt. Et je me suis démerdé tout seul, tout le temps, quoi. Et l'infographie, ça a été la même chose. L'infographie, quand je demandais à des gens, je galérais un petit peu, à dire genre, ouais, tu peux me faire une affiche, me faire un flyer, etc. Quand j'ai vu que ça galérait, je fallais. Et le premier logiciel que j'ai utilisé, c'était Gimp à l'époque, qui était gratuit d'ailleurs. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Et dès qu'on m'a refusé. Dès qu'on m'a dit aussi, on m'a mis un stop pour des médias, ben, j'ai créé mon propre média. Quand on m'a refusé, à chaque fois, j'ai fait exactement ce qu'il fallait pour être vraiment indépendant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma structure, elle est vraiment émancipée. On a besoin de personnes pour bosser. Et j'ai fait en sorte, en 15 ans de travail acharné, d'avoir aujourd'hui une structure où les gens viennent me chercher. Tu vois, et c'est l'aboutissement de tout ça. Et encore, je te parle, j'ai que 39 ans, quoi. Donc, je me dis, ça va être quoi ce bordel dans 10 ans, quoi. Ça va être.
On reprendra rendez-vous et j'espère que.
Qu'on t'invitera.
Mais en tout cas, c'est un beau témoignage de réussite, j'ai envie de dire, de persévérance. Et je pense que c'est des messages qu'il faut entendre pour la jeune génération. C'est vrai qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'ils aient tout, ils ont des ordi, ils ont internet, t'entends toujours, ouais, mais c'est dur, ouais, mais moi, il y a personne qui me donne ma chance, ouais, mais.
Tu sais, moi, il y avait une phrase qui est que j'ai un ami à moi qui s'est devenu un ami maintenant parce que, voilà, je l'avais croisé au quartier, ce mec-là, et un jour, il m'a dit une phrase, il m'a dit, tu sais, Béor, la vie, c'est dur. Je lui dis, la vie, elle est pas dure, c'est toi qui es faible. Parce que aujourd'hui, si la vie, elle était vraiment dure, personne ne réussirait. Et tu sais que ce mec-là, aujourd'hui, il a v'là les boutiques, il a v'là les trucs, cette phrase-là, elle l'a marqué. Parce que je l'ai touché dans son être, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, si on doit prendre vraiment tous ces gens-là qui vont dire non, c'est dur, je peux pas. Qu'est-ce qu'on, nous, on doit dire, notre génération, moi, Eden, qu'est-ce qu'on doit dire? Les jeunes de maintenant, ils vivraient même pas le cinquième de ce qu'on a vécu, nous.
Ah, c'était pas la même
chose. C'est abusé. Et nous, on le voit par rapport à nos tournages, hein. Des fois, quand on fait des tournages et qu'on invite des jeunes à venir, il y en a, ils te mettent des plans galères. Alors qu'ils ont des rôles.
Ils sont pas sérieux, c'est vrai.
Ils sont pas sérieux. Aujourd'hui, je forme des jeunes au métier du cinéma. Une école de Cinoche, ça coûte entre 8 et 15 000 euros l'année. Là, on a accéléré en quelques semaines, voire quelques trucs, quelques mois. Ils font des montages, ils tournent des choses, ils connaissent un peu tout le jargon cinématographique, audiovisuel, parce qu'on forme aussi des présentateurs, des chroniqueurs. On fait faire beaucoup aux jeunes des micro-trottoirs pour qu'ils puissent rentrer dans ce mood-là de discuter, d'échanger et de pouvoir accoster les gens facilement dans la rue pour discuter avec eux. Donc, c'est une très belle façon de devenir sociable, on va dire.
Et ils gagnent des années d'expérience, comme ça.
Voilà, exactement. Ils gagnent énormément d'expérience, ils gagnent énormément de d'assurance en eux. Et c'est un travail que moi, je kiffe faire, quoi. Moi, quand je me lève le matin pour aller bosser, je m'éclate.
T'es heureux, là?
Ouais, je suis heureux. Professionnellement, oui. Famille, oui. Parce que j'ai des enfants et j'ai une femme qui est exceptionnelle. Donc, je suis très bien dans ma vie. Et par contre, quand tu pars sur le côté LDA, un peu moins, parce que c'est bien,
parler, ouais.
Voilà,
c'est un peu sombre.
C'est même pas un peu, c'est très sombre.
C'est très sombre.
C'est très sombre.
Alors, tu parlais de musique, justement, on va écouter un premier titre de cette émission. Je vous ai demandé de choisir 3 titres, alors ouais. Ça va un peu donner le mood dans lequel vous êtes. Premier titre, c'est Mis à mort de Youss. Est-ce que tu veux nous en parler très rapidement?
Alors, Youss, c'est un frère, c'est un vrai frérot, Youss, et. C'est le leader du groupe Intik qui avait fait fureur dans les années 90, 2000, dans 2000 plutôt. C'était l'un des premiers groupes algériens de hip-hop et qui faisait aussi du reggae en même temps. Et Youss, c'est l'un des nombreux artistes pour moi qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Et ce morceau, j'y ai participé et c'est un morceau qui dit énormément sur la relation homme et femme. Et je vous invite à l'écouter, on peut même en discuter juste après si tu le souhaites.
Avec plaisir.
C'est ça l'amour, c'est jamais rose tous les jours. On peut s'aimer pour toujours, mais pas tout le temps, mon amour. À ce qui paraît, c'est ça l'amour, c'est jamais rose tous les jours. On peut s'aimer pour toujours, mais pas tout le temps, mon amour.
L'amour c'est inexplicable, l'amour c'est con mais formidable, l'amour n'est jamais raisonnable, l'amour te rend fort et vulnérable, l'amour te prend et te jette sans que tu puisses rien faire, l'amour te prend et te jette.
À ce qui paraît c'est ça l'amour. Pas tout le temps.
c'est indissociable de l'amour. Qui vraiment donne sans attendre en retour. Aimer aveuglément nous rend sourds. Les regrets, les sentiments, tout pèse lourd. À ce qui paraît, c'est ça l'amour.
De retour sur IDFM Radio, magnifique son de Youss, Mis à mort. Franchement, ça nous a conquis, Béor, tu nous as fait découvrir cet artiste magnifique.
Exactement, il est exceptionnel.
Un artiste complet.
Très complet, ouais, très complet. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un artiste qui a pas le il a pas la reconnaissance qu'il mérite. On a pas mal de pépites comme ça dans nos banlieues et sur Paris qui font de la musique extraordinaire. En plus, c'est un mec qui fait de la scène, c'est un showman exceptionnel. Et quand il fait de la scène, il fait qu'avec des orchestres.
Ouais,
ce qui est très très rare de nos jours. Moi, de ma génération, on savait qu'un artiste est un vrai artiste que quand il monte sur scène. Parce que faire le fanfaron en studio, c'est facile. Avant, on avait ce truc-là où les artistes arrivaient en studio, ils faisaient 90-95% du travail et t'avais l'ingé son qui faisait les 10-5 derniers pourcents, quoi, tu vois. Et la tendance qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça que je m'éloigne beaucoup malheureusement de cette nouvelle génération d'artistes. C'est que maintenant ils font 10% voire 20% du travail et t'as l'ingé son qui fait les 80% qui restent. Et ces jeunes-là, malheureusement, quand tu les ramènes sur une scène, ils sont perdus. Ça y est,
je sais plus comment elle s'appelle.
Ah, on donne pas de blaze. Hein. Ah, sinon, moi, tu pourras nous dire quelques... en off, mais pour.
Mais il y avait un groupe aussi pas... comme ça.
Non, quand j'ai passé.
La supercherie, assez vue, c'était même pas eux.
Sur scène.
Qui chantaient.
Bah maintenant, en plus avec l'intelligence artificielle, on n'est pas sorti. Hein.
Non, non. Bah, après, moi, je fais un gros big up à un crew qui a fait un gros travail de taré sur une artiste. C'était charismatique. Parce que moi, je peux dire qu'il y a des artistes, une petite artiste là, moi, je l'ai vue sur. C'était pas ça, quoi.
C'était qui?
Ouais, je sais plus comment elle s'appelle.
J'ai dit, une chanteuse?
Ouais, c'est une chanteuse.
De Marseille?
Ça commence par un...
Je crois que c'est bien ça.
Ça commence par un K?
Je crois que c'est ça.
Ok, c'est bon.
Voilà. Donc, du coup, non, c'est une. Non, c'est
tombé,
quoi.
On voit très bien qui c'est.
Voilà. Donc, du coup, un gros chapeau à Charismatique parce que franchement, ils ont fait un travail exceptionnel
sur.
Ah, c'était. C'est même plus de la magie à ce stade-là, c'est.
Donc Youss, artiste à découvrir, si vous avez apprécié le titre, allez regarder, enfin allez écouter sa musique sur YouTube, elle est disponible. Youss, Youss, j'en profite
exactement.
Pour faire un peu de pub.
Voilà.
Mi Amor.
C'est ça.
Béor est avec nous jusqu'à 17h sur IDFM Radio dans le Carré des Artistes. Donc on a parlé un petit peu de tes débuts dans ce milieu qui finalement t'avait fermé les portes.
Ouais.
Qui t'avait fermé les portes, tu les as ouvertes. Est-ce que, parce que bon, t'as survolé, t'as dit voilà, on m'a pas donné ma chance dans la musique, j'ai créé mon label, on m'a pas donné la chance dans le cinéma, j'ai coupé mes bandes et j'ai mis du scotch.
C'est ça.
Quelles ont été tes grosses difficultés, vraiment, pour pas qu'on pense que finalement ça vient comme ça, parce que là on va t'entendre, on va dire ah ouais ça va pour lui, hein. Vous voyez ce fameux commentaire, ça va pour lui. Quelles ont été tes grosses difficultés?
Le gros problème qu'on a eu. Après, il y a beaucoup de jeunes comme moi qui sont issus de la banlieue et qui se sont fait avoir. Parce que pendant toutes les années 2000 et même 90, on a eu des idées, on a eu pas mal de, on a été précurseurs et créateurs de beaucoup de contenu à la télé. Tu vois? Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles on a travaillé, mais c'est d'autres personnes qui ont pris,
La gloire.
La gloire derrière, parce que à cette époque-là, nous, on avait besoin d'oseille, on n'était pas dans ce travail-là contractuel qu'on a maintenant. Avec les années, tu prends une certaine expérience, donc du coup, tu vas t'entourer d'avocats, tu vas t'entourer de tout ça. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, juste le fait de pouvoir venir chez Skyrock, par exemple, c'était déjà quelque chose pour nous à l'époque. Tu vois, à l'époque, aller chez Génération, moi j'ai connu Génération à l'époque de la cave. Hein. Y avait pas de peinture sur les murs. Tu vois, donc c'est pour te dire que ça fait longtemps qu'on est là. Là, les gens, quand ils vont m'entendre, ils vont penser que j'ai 50 piges. Non, j'ai 39 piges, mais je traîne dans la musique depuis l'âge de 13 ans. Donc les studios, tous ces grands groupes ou grandes figures du hip-hop maintenant, c'est des gens que moi j'ai connus à l'époque où ils étaient pas connus. Donc j'ai une approche un peu différente de tout ça, et comme je t'ai dit, on a été précurseurs de beaucoup de projets, et c'est d'autres personnes qui ont pris ça parce qu'ils avaient l'argent, ils avaient les connexions, et même si demain tu vas les attaquer en justice, tu vas les attaquer avec quoi déjà pour commencer, et quelle preuve t'as? Parce que ces gens-là, ils savaient comment monter les dossiers, ils savaient comment protéger des idées.
Des œuvres.
À savoir que...
Voilà. Avant, à savoir que nous, on n'avait pas à l'époque. À l'époque, on n'avait pas accès à ça. Aujourd'hui, on est inscrit à la SACD, on est inscrit à certaines institutions qui vont nous protéger de par ce qu'on fait. Mais à l'époque, on n'avait pas accès à tout ça. Et en plus, va dire ça à un jeune de quartier, va payer 200 francs, 300 francs, tu vois, on va protéger ce que tu racontes. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me racontes toi déjà? Pas commencer, tu vois. Donc il y a ce truc là que voilà, c'est on a eu de la frustration là-dessus, et après on s'est mangé la barrière raciale.
Ouais.
Clairement. Aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Ils se sont appropriés quand même notre art pour commencer. Et là, je suis encore plus choqué d'une chose. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais là, à partir de 2024, les profs de danse afro n'ont pas le droit de donner des cours s'ils n'ont pas de diplôme.
Oui.
Et c'est un diplôme qui doit être donné par l'Institut français de la danse de je ne sais plus quelle institution. Ça veut dire que là, en gros,
c'est
on va demander des diplômes à des gens qui veulent enseigner leur art. Quoi. Tu vois, c'est même là-dessus, on veut mettre la main. Donc, je me demande jusqu'où ça va aller.
Comment t'expliques ça, toi, justement, ce phénomène-là de j'ai envie de dire de verrouillage, de contrôle, de...
C'est financier. C'est financier, c'est pas autre chose.
C'est avoir la main mise sur un...
Parle bien dans le micro, Eden.
C'est avoir la main mise sur quelque chose dont ils n'ont pas les codes, en vrai.
Bien sûr, bah oui. C'est comme les gens. Moi, ça me fait rire. Une fois, j'avais rencontré une artiste. Bon, une artiste, ouais, on va dire ça. J'ai rencontré une femme une Belge, qui m'a raconté qu'elle allait donner des cours afro aux Africains.
C'est génial.
Mais moi, je l'aurais pas faite. Hein. Arrivée surprise du boulet de l'amende.
Axel nous a rejoint. Il est
arrivé. T'imagines le truc quand même, tu vois. Quand même, devant nous, elle nous a dit, je donne des cours afro en Afrique, au Bénin. Tu vois,
Peut-être qu'elle était de là-bas, non?
Elle est belge, elle a grandi en Belgique, c'était une gosse un peu bobo, voilà quoi, elle a rien à voir avec la danse afro. Donc elle a dû prendre des petits cours en Belgique, et après elle s'est dit, je vais aller donner des cours aux Africains de la danse afro. Donc arrive un certain moment, quand tu vois ça,
c'est lunaire.
Il n'y a plus rien qui peut t'étonner. Mm. Et aujourd'hui, qui veulent avoir la main mise sur notre art, c'est spécial, parce que tu sais pourquoi c'est spécial? Moi, je l'ai rencontré depuis que je veux lancer mon média. Je le vois, le regard qu'il y a sur moi qui a totalement changé. Tu vois, qui a totalement changé, parce que dans ce pays, moi, il y a eu un ancien qui m'avait dit un truc qui était de la télévision, qui est père à son âme, il est décédé. Il m'a dit, il n'y a pas plus puissant qu'un homme qui a un média. Tu vois, et ça, je le comprends que maintenant.
Ouais.
À l'époque, moi, je disais, ouais, t'as raison, mais voilà, tu vois, c'est pour moi, à l'époque, c'est ceux qui faisaient le produit qui étaient les plus puissants. Non, c'est celui qui le présente qui est le plus puissant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tous les directeurs de aujourd'hui de médias, ils peuvent changer entièrement la face d'un produit. Ils peuvent faire monter des artistes comme les faire descendre. Ils ont tous les pouvoirs.
Et toi, c'est pour ça que tu veux avoir un média, pour avoir le pouvoir?
Non, je veux avoir le média. Moi, j'ai créé mon média vraiment pour mettre en lumière les gens qui le méritent. C'est totalement différent. Ça veut dire que je veux vraiment ouvrir. C'est comme quand je fais mes formations sur les métiers du cinéma. Je le fais pas pour. C'est pas ça qui va me rapporter de la gloire. Je le fais juste pour donner une chance qu'on m'a pas donnée.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sous-cotées qui n'ont pas forcément la visibilité qu'ils méritent.
À mort.
C'est
pour ça que ce média-là, il existe, hein, tout simplement.
Et nous aussi, c'est pour ça qu'on existe, Béa.
Voilà. Je vais donner encore un autre exemple. Tu vois, moi, quand j'ai signé mon premier contrat pour l'audiovisuel. Pour une série, pour la télé, on m'avait fait des promesses. contractuel, ça c'est bon, mais par contre les promesses qu'on m'a fait en off par rapport à mes activités, on m'a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, tu vois.
T'as pas signé de contrat aussi, Béor?
Ouais, après, non mais ça c'est sûr, mais t'as raison, attention, c'est une erreur que moi j'ai commise. Hein.
Eh oui, et c'est plus avant, on se tape dans la main, c'est parole d'homme,
ouais,
et vas-y.
Mais voilà,
tu vois
après moi je suis un petit peu comme ça, tu vois, ouais, moi par exemple, si je parle avec toi et je m'engage sur quelque chose, quitte à ce que je perde de l'argent, je vais m'y tenir.
Tu vois, aussi, je suis comme toi.
Voilà, moi, je suis quelqu'un de parole. Et aujourd'hui, dans cette industrie, il n'y a personne qui peut venir aujourd'hui devant nous et devant tout le monde et me dire « t'as pas tenu ta parole à ce moment-là ». Parce que j'ai toujours été un homme de parole là-dessus. Maintenant, quand j'ai posé la question à cette personne-là en lui disant « oui, par contre, on m'avait promis ça à côté pour ma structure », ils m'ont dit « oui, mais c'est bon, t'as vu, moi, les promesses que je t'avais faites pour l'argent, je l'ai tenues ». Et c'est ça le truc. C'est qu'on a toujours cette image-là du bon lieusard à qui tu donnes de l'oseille, il ferme sa gueule. Tu vois, c'est le problème, il vient de là. Et aujourd'hui, quand il se retrouve avec des mecs de banlieue qui ont des principes et qui peuvent s'asseoir sur de l'oseille, parce que moi aujourd'hui, je te dis la vérité, j'en ai rien à foutre de l'oseille. C'est si l'argent était mon
leitmotiv,
ma motivation première aujourd'hui, je serais chez Aluna.
Non, mais c'est un truc qui est vrai.
Tu vois, je serais chez Aluna aujourd'hui.
T'as eu des propositions?
Bah oui.
Ok.
J'ai eu des propositions. Je serais chez Aluna aujourd'hui en train de faire le fanfaron.
Le guignol, ouais.
Tu vois, j'ai été invité chez lui pour mon livre et tout. J'ai pas été.
Ouais.
J'ai été invité pour des histoires d'avant. J'ai pas été parce que j'ai ce truc-là de principe que beaucoup ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, si on allait sur ce côté-là, on peut avoir des principes. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avancer en banlieue? Parce que tout le monde est divisé.
Oui.
Tu vois, tout le monde est divisé. Tout le monde. C'est comme quand on fait des associations dans des quartiers. On fait des associations. Tu vas avoir, par exemple, sur une ville, tu vas avoir 4-5 associations sur le problème des RICS.
Oui.
Parce que c'est ce qui rapporte de l'oseille depuis 3 ans.
Elles se tirent dans les pattes.
Mais elles se tirent dans les pattes entre elles.
Ouais,
mais comment tu peux demander aux jeunes de ne pas se battre entre eux si toi-même tu te bats avec les autres? Tu ne peux pas, c'est impossible. Et quand tu leur demandes de se réunir tous autour d'un même projet, ils vont penser tout de suite au côté financier. Non, si on se rapproche, on aura moins de subventions, on aura moins de ça, on aura moins de poids pour les prochaines élections. Tout ça, ça a été calculé. Avant toute cette merde-là associative, c'était Paris qui donnait les subventions. Donc du coup, ça ne dépendait pas des communes. Donc les associations, elles étaient beaucoup plus libres de faire un travail qui soit mieux sur le terrain. Depuis qu'ils ont donné ça aux communes, maintenant que c'est le maire, entre parenthèses,
qui a le pouvoir,
donc maintenant tu as beaucoup d'associations d'électeurs plutôt que d'associations associatives. Et ça joue beaucoup. Et le problème qu'on a en banlieue, surtout par rapport à cette nouvelle génération, elle vient de là. C'est que le rôle de grand frère que nous on a eu, et ceux qui nous ont précédés, bah la nouvelle génération, non, la plupart des grands frères de maintenant, ils ont des associations, ils demandent des locaux, ils ouvrent leur studio d'enregistrement, ils ouvrent je sais pas quoi, ils font leur business, il y en a plein, ils font leur terrain carrément dans leur association. Et voilà, et après le reste des gosses, on s'en cogne quoi. Moi j'ai été là pendant énormément d'années dans mon quartier à aider les jeunes. On m'a brûlé ma voiture, mais ça je sais que c'est d'autres associations qui les ont envoyés des jeunes pour le faire, tu vois. À partir de ce jour-là, je leur ai dit ok, je fais plus rien. Et maintenant tu vois l'état dans lequel il est.
C'est dommage. En fait, tu vois que c'est de l'auto-sabordage de l'intérieur et
bien sûr.
Tu te sens un peu impuissant. Mais toi, justement, Beur, pour revenir donc à tes activités, tu as créé Boza Industrie. Est-ce que tu veux nous en parler?
D'accord. Alors Boza Industrie, c'est à la base ma boîte de prod dans le cinéma et beaucoup moins dans la musique maintenant. Parce que comme je t'ai dit, la nouvelle génération, elle me fatigue, clairement. Et donc du coup, beaucoup dans le cinoche. Et à côté, j'ai créé Boza aussi, l'association, qui est elle spécialisée dans l'insertion à travers les métiers du cinéma, de la musique et de l'art. Donc du coup, on forme des réalisateurs, des ingé-sons, on forme tout ce qui est autour du cinéma. Et on forme aussi des chroniqueurs, des présentateurs télé, radio et autres. On fait vraiment l'ouverture à des corps de métier qui ne... que les jeunes n'ont pas accès ou qui n'ont jamais pensé, tu vois.
Ou qui pensent inaccessible.
Bien sûr, mais c'est inaccessible à la base.
Oui, les formations valent très très cher.
Voilà, une école de cinoche aujourd'hui...
C'est 5000 balles minimum.
C'est entre 8 et 15 000 euros pour une école...
Qui tient la route, ouais.
Qui tient la route, quoi, tu vois. Où tu sais que tu sors en sortant, que tu vas avoir des stages dans certaines boîtes et autres. Parce que c'est très sélectif. Et donc, du coup... un gosse aujourd'hui, tu vas aller dire oui, tu vas payer entre 8 et 15 000 euros pour le truc, alors que le petit, déjà, il charbonne pour nourrir sa famille, pour aider ses parents, et toi, tu lui sors, il faut que tu sortes entre 8 et 15 000. Va dire à tes parents de s'endetter 8 et 15 000 euros pour que t'ailles faire une école. Et t'es même pas sûr d'avoir ton diplôme en plus. En plus, ça, c'est l'année. Mais nous, on est vraiment juste une sorte de passerelle entre nous et certaines formations. Donc nous, on va les former, on va dire, à...
aux généralités.
Mais ils peuvent travailler. En gros, quand ils finissent leur formation chez nous,
ils ont les outils pour pouvoir faire des stages ou pour pouvoir aller sur des tournages,
voilà.
Des choses comme ça.
Ils bossent. Moi, j'ai un de mes jeunes aujourd'hui, il habite à Los Angeles. Ouais. Tu vois.
Qui est passé par.
Qui est passé par Beaux-Arts. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai des boîtes de prod et certaines chaînes. Il y en a un carrément, il m'a dit, d'une télé, il m'a dit si j'ai le choix demain de prendre un jeune de chez Beaux-Arts Industries. Et un jeune d'une grande école parisienne, je prends celui de Beaux Industries parce que il connaît déjà le terrain, et il sera plus formé. Tu vois? J'ai des jeunes, par exemple, qui sont venus d'une école qui s'appelle Sugère à Saint-Denis. J'ai vu des stagiaires de chez eux qui sont venus dans ma structure pendant un mois. Ils m'ont dit, ils ont appris plus en un mois chez moi qu'en 2 ans d'études là-bas. T'imagines, 2 ans d'études là-bas. Pour être photographe, ils arrivent chez moi, ils ont appris plus en un mois. Pour te dire à quel point c'est, la formation est totalement différente.
Ouais.
Alors, il faut savoir, les jeunes, il faut savoir les prendre, il faut savoir les
ouais,
faire intéresser.
Ouais. Ouais. On va écouter le deuxième titre de l'émission, Funky Family. C'est
Tonight.
Tonight, c'est
la nuit.
Une sélection encore Beaux-Arts.
Ouais.
Un titre que t'écoutes la nuit, du coup, en rentrant chez toi.
Ça, il faut l'écouter quand on rentre à la maison le soir.
À tout de suite pour continuer à découvrir Béor Eden. On parle de Beaux Industries, on va parler de ton livre aussi que t'as écrit.
Exactement.
Et on se retrouve tout de suite après.
La nuit.
Succède au soir, moi je tente d'y voir un rêve et réalité, c'est stressant. Méga prêt à tout brûler, représente. Après-midi ensoleillé, je dors un stylo sous l'oreiller. FF attaque et ton dragon ne s'est pas réveillé. Lyrics abstrait, c'est un effet de mon insomnie. SNT, c'est une histoire d'insomnie.
J'en ai passé des nuits à me faire chier comme jamais. Seul ou entouré de tous durant toutes ces années. Connu ce mal à m'endormir comme si j'allais passer devant le juge. Ce besoin de traîner dehors, même sous le déluge. Ces soirées qui durent jusqu'alors, va parler de tout, de nous, du monde, jusqu'à ce que les larmes nous montent. Ces moments de joie, ces pleurs de rire, ce sentiment de bien-être qui n'enlève rien à notre mal de vie.
Dans les moments les plus calmes, la nuit on stresse, dès qu'il y a moyen on se casse. Faire des virées en caisse, observer la vie est pliable pour le plaisir d'ivresse. On voit plus ces jeunes et dans leurs yeux la même tristesse. On voit toutes sortes de gens, du style inconnu et pote. Snob et cloche, pute et coffre. La nuit dans la rue, certains diront que c'est nul. Mais y'a qu'à penser à ce qui mate la lune depuis leur cellule.
Les yeux injectés de sang, je mets plus où la caisse nous mène. La nuit c'est malsain, mais je me sens si bien en son sein. La nuit c'est crimes et larcènes. Flic, max et catin, zonard des boss, fileur du cœur de gratin. Dur de nier ce à quoi nous sommes liés. L'obscurité nous fait gamberger, même prier. Besoin de plier, pigner, faire des billets. Et pour ça zing, faut pas oublier.
La nuit c'est plaisir, c'est risque. Entre soirée, délire et sirène de flic. Chaque moment vécu reste unique. Faites de choses simples, comme se retrouver dans une caisse à 5. À déguster de la zip et à se prendre pour les parrains de la ville. Ou à rôder pour serrer quelques filles. À échanger des regards avec les civils. C'est ça la nuit, vaut mieux être malin et habile.
Du sexe, du reste, du stress, du reste, du reste, de joie.
Même si c'est pas toujours doux et rose, la nuit c'est ta merveille quand je nous rôle.
Du
sexe, du reste, du stress, du reste,
de joie.
Même si c'est pas toujours doux et rose, la nuit c'est ta merveille quand je nous rôle.
La nuit, 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 la nuit.
J'ai croisé des fous et des folles. Des jeunes qui se gâchent dans la coque et l'alcool. Des mecs qui viennent sortir de tôle. Des SDF qui n'ont pour matelas que le sol. La nuit on rigole mais nos visions ne sont pas drôles. Des accidents graves, des embrouilles, certains frôlent la mort. Tout ça noircit ce putain de décor. On doit aimer cette putain de vie hardcore. Quand on en demande encore et encore.
Des gars cherchent une place assise dans ce bar. Ramène les comptes jusqu'à 10 et on se barre. En bonne compagnie, y'a un son de barge dans la 205 rouge. Rouge monte les basses, que les enceintes bougent. Full hot night, allons-y all right. Avant des goodbye, on est ready to fight. La pénombre encourage nos marginalités. Est-ce que nos raps font monter le taux de criminalité?
Dès que le soleil se couche, on se foutait dans les règles. On est raide et toujours contre ce qui tienne les rênes. Quand les étoiles brillent, une autre ambiance règne. C'est un rêve ou réel, je sais pas, mais c'est ce qu'on aime. C'est le bon moment pour extérioriser. Transformer en pierre un cœur brisé. C'est le bon moment pour voler, décoller ou baiser. La nuit, on préfère la maîtriser que la mépriser.
On aime sans la caille, avec ou sans grenaille. On aime les soirées in the night, et c'est où qu'on aille. On laisse une odeur de canaille, de béton, ouais canaille. On se fout du code pénal, la nuit on nique des nia. On évacue stress, pression et déception. À l'air libre, j'ai tout, faut dire que je suis sous tension.
Demande au ref au 143 et shoot star qui est le champion de toute catégorie des couilles.
On aime vivre hors du temps, se dire qu'on sort durant 6h du mat, ça fume les derniers joints, cavronnons sur un banc. Rien de bien palpitant, putain, on attend quoi alors qu'on sait qu'il se passera plus rien. La vie suit son train, le jour reprend ses droits, le monde réel retrouve ses règles et ses lois. Pour la suite de l'épisode, rendez-vous des soirs, vu que l'aurore a pris le dessus sur ce ciel noir.
Retour sur IDFM Radio, on est avec Béor aujourd'hui. Béor, acteur associatif, réalisateur, producteur de musique, photographe, fondateur de l'ALDA, auteur du livre Alerte Disparition, paru le 25 mai, donc disponible, hein, 25 mai 2023, disponible, il raconte son histoire. Une histoire qu'on va peut-être détailler rapidement. Bon, si vous voulez tout savoir, vous pouvez, il y a plein d'interviews sur le sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à toi pour ton histoire qui est vraiment, moi quand tu me l'as raconté, j'étais choquée. Je me suis dit, il me raconte un film, c'est un gros mytho. Tu vois, on est dans du paranormal.
J'ai eu la même réaction, tu vois. J'ai juste lu le titre de l'interview. Je fais, non, c'est un film, tu déconnes.
Ouais, et bah j'ai c'est écouté, lui,
j'étais en mode, ouais.
Donc, on va en parler. T'as écrit un livre et aussi, tu as comme projet de faire un documentaire.
Exactement.
Aussi, j'aimerais qu'on en parle.
Bien sûr,
il est très important. Si tu le veux.
Bien sûr.
Ce documentaire, c'est quoi ?
Alors, on lance un documentaire qui est très important pour moi et pour Eden, parce qu'on a eu l'idée ensemble, dans la voiture. On était dans les bouchons, on allait bosser, et dans les bouchons, on s'est dit, ça, et je dis, écoute, franchement, j'ai une idée de taré. Viens, on fait un docu sur la banlieue, on l'appelle Regarde de banlieusard. On en a parlé vite fait. Finalement, on a commencé le tournage le jour même, je crois. Le jour même, on a commencé les interviews. On est parti vraiment d'une idée loufoque rapide. Sur le trajet, en arrivant à Créteil, on a pris trois personnes dans toi.
Ça sortait d'une conversation.
Regarde de banlieusard, donc.
Et vraiment, c'est Regarde de banlieusard.
Et du coup, le lendemain, l'affiche a été prête, le logo, je l'ai fait, j'ai tout préparé.
L'objectif, c'est quoi ce documentaire?
L'objectif de ce documentaire, c'est vraiment donner la parole au banlieusard et de parler de la banlieue dans tous les sens. Ça veut dire que dans les questions, il y a le meilleur moment que tu as vécu en banlieue, le pire moment que tu as vécu en banlieue, et on a remarqué déjà sur les peu d'interviews qu'on a eu qu'il y a Bouna Iziet qui revient souvent.
Ouais.
Tu vois, c'est pour te dire que c'est vraiment
Iziet et Bouna qui
ça a marqué
Bouna Iziet, c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup marqué et on parle aussi des difficultés que les gens ils ont en banlieue, les difficultés, les avantages qu'ils ont aussi, parce qu'il faut pas parler que du malheur qu'on a dans la banlieue, il faut aussi parler de tout ce qui est beau, parce que on n'a rien, mais on vit tellement bien en vrai.
Il n'y a pas que du mauvais.
Voilà, c'est.
Et c'est surtout que la banlieue, beaucoup de gens en parlent, mais c'est très peu des personnes qui viennent de banlieue.
C'est vrai, sans la connaître.
Mais très peu de personnes la connaissent. Et du coup,
c'est un truc important, qui est important pour nous, de mettre en valeur ces personnes
ces regards-là
à qui on ne donne pas la voix.
Donc c'est un documentaire, j'ai envie de dire presque immersif, quoi. C'est le
pouls. C'est immersif.
Le pouls de la banlieue.
Tu sais, en gros, le truc qu'il faut. En gros, le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est quoi? C'est qu'on est venu nous chercher pendant pratiquement plus de 15 ans. On est venu nous chercher pour faire rentrer certaines personnes, pour faire des documentaires, pour faire tout ça, tu vois. Donc, du coup, quand ils avaient besoin de parler avec quelqu'un en banlieue, on passait par nous. Est-ce que c'est possible d'avoir un tel, d'avoir un tel? Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'ils font des interviews ou qu'ils font des documentaires, c'est toujours le contraire de ce qui a été filmé qui en sort. Et aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur parce qu'on a les outils, on a le savoir-faire, on a tout ce qu'il faut pour mener cette mission à bien. Quitte à prendre un an, deux ans pour le faire, ça me dérange pas du tout. Aujourd'hui, le temps, on l'a pour faire ce projet-là, en tout cas.
Exactement.
Voilà. Et c'était très important. Ça va sortir, ça va être un bordel.
Est-ce que vous savez à peu près quand est-ce que ça va sortir? Sur quelle plateforme ça va sortir? Vous allez procéder comment, en fait?
En gros, ça sortira pas sur le net, déjà, pour commencer. Donc
d'accord.
Là, ça va être une option qui va être... Où ça sort sur notre plateforme directement.
Okay.
Du coup, quand l'application elle sera prête. ou ça sortira sur Netflix voire Amazon quoi. Ça va être vraiment.
D'accord. Sur un.
Je vais vraiment prendre mon temps. C'est la seule condition.
Donc c'est pas tout de suite, Béor. C'est pas dans l'année 2024, si.
Et tout est possible
tout
dans
est possible. Ouais, tout est possible. Après ce que tu nous as raconté, oui, tout est possible.
On travaille rapidement.
Mais voilà. Béor, du coup, quel truc en plus va avoir ton média? Parce qu'il y a des médias qui existent alors, pour la banlieue comme Banlieues Arts Nouveaux.
Nous, ça va être un média qui va être plutôt. Il va avoir une grille journalière.
D'accord.
D'accord, le plus important, c'est que ça va être comme une vraie télévision.
D'accord. Ça va être une vraie télévision. Chaîne, voilà. Une chaîne de télé.
Ça sera une chaîne de télé qui va être via une application, qui sera accessible via une application, qui pourra être téléchargeable sur les téléphones, les tablettes, ordinateurs et même sur les smart TV.
Super.
Donc tu peux être très bien chez toi et tu peux lancer comme Molotov, comme certaines applications comme ça, où tu vas lancer ta télé et du coup tu vas avoir accès à du direct ou à du replay suivant ton envie et tu vas avoir une grille journalière qui va être disponible aussi sur l'application. Il va y avoir des dessins animés qui vont être regardables par les enfants, ce qui est très important pour nous parce que j'en ai marre de voir des gens qui se galochent ou des meufs tout le temps à poil dans les dessins animés. Ça commence à être fatigant avec des gros mots. Donc nous, notre but à nous, c'est quoi? C'est que les parents peuvent ouvrir l'application n'importe quand dans la journée.
On n'a pas peur de voir un truc chelou.
Exactement, il n'y aura pas de truc chelou. Et le plus important pour nous aussi, c'était vraiment d'avoir du contenu d'émergent. Ne pas avoir des contenus connus, ça ne nous intéresse pas. Passer une saison de Prince de Bel-Air, ça ne nous intéresse pas tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment l'émergence. Donc du coup, on va récupérer énormément de contenu de jeunes réalisateurs. Qu'on va mettre directement sur notre plateforme à nous. Donc il y aura des séries, il y aura des dessins animés, il y aura des courts-métrages, il y aura des films, il y aura vraiment un endroit pour tous ces gens-là qui en ont besoin.
Est-ce que tu sais comment ça va s'appeler déjà?
Boza TV.
Boza TV.
Voilà, ça sera Boza TV. De toute façon, Boza, c'est à toutes les sauces.
B-O-S-A, si vous voulez, ton t-shirt aussi. Du coup, il y a aussi des t-shirts de dispo.
Exactement.
Boza TV, donc prochainement, qui va ouvrir. Tu viendras nous en parler. Parce que je pense que ça, c'est intéressant et que les gens ont besoin de consommer aussi autrement à la télé. Ils en ont marre. Il y en a beaucoup qui ne regardent plus la télé de toute façon.
Non, il y en a plein qui ne regardent pas la télé parce que il y a des choses à la télé qu'ils n'ont pas envie de voir.
Ouais.
Nous, on va avoir des émissions qui vont être en direct le soir sur la plateforme. Chaque émission va avoir un thème différent. Donc il y aura des émissions sur la musique, il y aura un talk show aussi.
La santé, tu m'as dit.
Il y aura aussi une émission qui s'appelle Métamorphose, qui va être sur le bien-être. Il va avoir aussi un journal d'information une fois par semaine, donc il y aura ça. Et bien sûr, pour préparer tout ça, on a lancé aussi notre magazine qui s'appelle Boza Mag, qui existe maintenant depuis un an, qui est en vente sur notre site internet bozaindustrie.com. Et là, au mois de février, donc là, je peux lancer un appel officiel chez toi. D'accord.
Février
pour
2024.
Le 95, on n'a pas encore enquillé le truc. Eden est en train de travailler là-dessus. Mais là, on lance trois nouveaux web magazines à partir du mois de février. Donc le premier, ça va être dans le 93. Il va s'appeler 93 Connection Magazine, qui va être entièrement édité par des jeunes du 93.
Super.
Ça nous tenait vraiment à cœur justement. Et là, on part sur une nouvelle page du travail de journalisme et le travail d'auteur qu'on va faire beaucoup avec les jeunes dans le 93. On va avoir Ouégro Magazine qui va être pour le 94.
Ouégro.
Voilà, Ouégro Connection Magazine. Exactement. Et là, on part aussi sur un magazine qui va être dans le Nord aussi, pour Lille et toute la région lilloise.
D'accord.
On n'a pas encore le nom officiel, mais on a eu pas mal de propositions. Et là, on est en train de voir aussi comment s'organiser parce que moi, je travaille beaucoup sur le 94, surtout sur la ville de Créteil, par exemple. Et dans 93, ça c'est chez moi, donc du coup je bosse un peu partout. Mais c'est vrai qu'on a encore besoin de gens dans 95 et 92 pour lancer aussi eux leur propre magazine avec des jeunes.
Et alors Eden 95, tu peux quand même
on est en train de travailler dessus.
Okay.
Voilà.
On va prospecter. On va
voir. De toute façon, c'est simple.
On trouve des bons journalistes du 95.
Voilà. De toute façon, s'il y a un magazine
du département.
D'accord.
De toute façon, si on sort notre magazine dans le 95, ça sera Eden qui sera rédac chef. Donc du coup.
Super.
Faudra en parler avec lui.
Bah voilà.
On va avancer. Il nous reste 10 petites minutes. Béor, j'aimerais que tu me parles de ton livre qui est sorti au mois de mai.
C'est ça.
Nous raconter aussi ton histoire, même si je sais que tu l'as raconté des centaines de fois certainement. Tu as été interviewé plusieurs fois.
Ouais.
À l'ère disparition.
Exactement. C'est un livre qui est sorti le 25 mai l'année dernière, de cette année justement 2023. Ça a été le travail. C'est un travail qui a duré pratiquement 2 ans en termes d'écriture. Je l'ai écrit avec une femme qui a compris ma vision, on va dire. Et c'était important aussi de l'écrire avec une femme qui ne fait pas partie de mon milieu. Tu vois, donc
un regard extérieur.
Bien sûr, bien sûr. Elle s'appelle Claude Mondéville et franchement, elle est en termes d'écriture, elle est exceptionnelle. Elle est très douce dans sa façon de travailler. Tu vois, et elle a très très bien compris. Elle a pu écrire un livre. Les retours que j'ai, c'est un livre qui est très facile à lire. Qui est. Moi, j'ai des gens, par exemple, là. J'ai une femme qui m'a dit qu'elle l'a acheté hier matin et elle l'a déjà fini, quoi. Tu vois, donc c'est pour te dire. Elle l'a lu d'une traite. Et elle m'a dit je pouvais pas me lever. J'avais du travail, mais j'ai pas pu me lever. Et j'étais obligé de le finir parce que du début jusqu'à la fin, elle a été prise par le truc, quoi. Tu vois. Et ce livre-là, ça a été c'est j'y raconte beaucoup de choses. C'est la première fois que je me confie autant dans un truc, quoi. Donc ça parle vraiment de ma jeunesse en Algérie. Ça parle aussi de mon intégration quand je suis arrivé en France. Ça parle aussi de beaucoup de difficultés que j'ai vécues. Donc là, c'est vraiment très détaillé.
Est-ce que tu y parles sans filtre ?
Sans aucun filtre. J'ai aucun filtre, moi. T'as vu, je te parle là, je parle comme ça avec tout le monde. Il y en a beaucoup qui m'aiment pour ça, il y en a beaucoup qui me détestent énormément pour ça. J'ai beaucoup de portes qui se sont fermées, beaucoup de portes qui se sont ouvertes grâce à ça aussi. Je suis quelqu'un de très très franc. Quitte à faire du mal à la personne, je préfère lui dire les choses. Tu vois, donc je suis de cette école-là, on va dire. Donc du coup, dans ce livre-là, oui, je raconte énormément de choses. Je me confie rarement comme je l'ai fait dans ce livre. Parce qu'avec Claude, je me suis senti à l'aise et j'avais peut-être aussi, moi, besoin de sortir certaines choses, quoi, à mon avis, tu vois.
C'était ton exutoire ?
Mon exutoire, je sais pas trop.
Vider ton sac, un peu.
Est-ce que ça t'a fait du bien de le sortir ?
Ça m'a fait du mal de le sortir. Ouais, ça m'a fait du bien de le sortir parce qu'il y avait beaucoup de choses que beaucoup de gens devaient savoir, peut-être. Après, moi, j'ai pas vraiment un besoin que tout le monde connaisse ma vie. Mais là, je me suis dit, c'est un petit clin d'œil à la vie, c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui n'ont pas cru en moi non plus. Mes profs de français, tu vois, parce que moi, j'ai eu beaucoup ces moqueries de profs où t'arriveras à rien, alors que j'ai quand même eu mes diplômes.
Ouais.
Tu vois, j'ai eu des petits trucs comme ça. Ce livre-là, ça a été. Tu sais, quand je travaillais dans les finances pendant 2 ans et demi, j'étais conseiller financier en gestion de patrimoine. J'avais passé tous mes diplômes pour, hein, tu vois. Donc, j'étais fiscaliste à ce moment-là. J'avais fait une conférence. Et en face de moi, pendant la conférence, je me rends compte que j'ai mon prof de maths du collège qui était au premier rang. Et c'est un prof que j'ai beaucoup détesté. C'est un homme qui m'a beaucoup rabaissé, beaucoup, alors que j'étais bon en maths, hein, j'étais très très bon, tu vois. Et à la fin de la conférence, je suis parti le voir juste pour lui dire, regarde, t'as vu, t'as payé pour venir me voir. Tu vois, ce sentiment, c'est super jouissif et j'ai ressenti exactement la même chose quand mon livre est sorti parce que beaucoup de gens n'ont pas cru en moi, beaucoup de gens m'ont mis des bâtons dans les roues et je pense que ce livre, c'est pour eux, en vrai. Tu vois, même si je m'en conne la rondelle de ce qu'ils peuvent penser de moi, hein, c'est ma réponse à ces gens-là. Et oui, bien sûr, après, il y a des gens qui sont beaucoup plus importants d'avoir leur avis que d'autres, quoi, tu vois.
Alors, Béar, moi, j'ai envie vraiment de teaser ton livre parce que c'est certain qu'après cette émission, beaucoup de personnes vont vouloir le lire.
Mm-hmm.
Ta fille est enlevée à l'âge de 14 ans,
exactement.
Fille Assia.
Donc, du coup, j'ai ma fille qui a été enlevée, séquestrée quand elle avait 14 ans. C'était le 2 janvier 2019. Par la suite, beaucoup de choses sont expliquées dans le livre. Parce que à chaque fois, je survole un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais
ne dis pas tout, là, mais laisse si les gens...
Voilà.
Mais...
Et pour la grosse histoire, c'est vraiment que je l'ai retrouvée 72 heures après, à 400 km de Paris, à Épinal. T'es séquestré dans un appartement, dans une résidence, par un jeune schizophrène qui avait arrêté de prendre son traitement, tout simplement. Et qui avait frappé sa mère quelques jours avant, il l'a foutu à la porte pour pouvoir
enlever ta fille.
Enlever ma fille, la séquestrer là-bas, quoi.
Et donc tu y racontes comment ça s'est passé, tu y racontes
exactement
comment la police aussi ne t'a pas forcément écouté et
j'ai aucune aide de la police, mais après c'est sûr que moi mon histoire elle galvanise pas mal. Quand tu dis qu'un papa il a enfreint la loi à toute patate et que il, pour sa fille, ça impressionne.
Et puis on peut se mettre à ta place en fait.
On peut se mettre à ma place facilement parce que n'importe quel père aurait pu le faire, tu vois. C'est juste que moi j'ai eu un vécu qui m'a permis de le faire surtout. C'est pour ça que moi par exemple l'une des premières interviews que j'ai, vu que moi j'ai un passif dans la rue, tu vois. Un journaliste il m'a dit est-ce que l'ALDA c'est une sorte de vous rattraper de ce que vous avez fait avant, tu vois. J'ai dit non, moi je regrette rien de ce que j'ai fait avant. Je dis aujourd'hui c'est le vécu que j'ai eu, j'ai pu faire du mal à des gens, etc., etc. Tout ce que j'ai eu comme vécu, c'est ce qui a permis de retrouver ma fille aussi vite. Tu vois, j'aurais pas eu cette froideur qui me vient de la rue, j'aurais pas retrouvé ma fille aussi vite.
Et tes connexions aussi?
Mes connexions, oui. Après, ça a été, ce que je disais aussi, c'est, moi, quand ma fille a disparu, j'ai mis un avis de recherche vers les coups de 21h, et, de 21h à 3-4h du matin, on était plus de 40 bagnoles, quoi, tu vois, parce que les gens, ils sont venus vraiment partout. Ils sont venus de Strasbourg, ils sont venus de Lyon, il y en a, ils sont venus vraiment partout, parce que, quand j'étais dans la musique, ce que je disais tout à l'heure avec Eden, quand on était jeune, on était vraiment dans ce travail-là d'aller vraiment partout. Donc, nous, pour vendre des CD, quand on était petits, on allait au Printemps de Bourges, on allait, au Festival de la Vieille Charrue à Charleville-Mézières, on allait à la braderie de Lille, on allait vraiment.
Ta bosse, voilà,
un tour de France.
Ouais.
Exactement, tu faisais le tour de France. Et du coup, par la suite, les gens, ils me connaissent un peu partout. Donc, quand ils ont su que ma fille avait disparu, ils sont tous venus tout de suite, quoi. Ils ont même pas réfléchi. Il y en a, ils bossaient le lendemain, et ils ont pas été au travail pour chercher ma fille, tu vois. Donc, ça, c'est le résultat aussi de beaucoup de travail de terrain, de beaucoup de choses. Et tous ces gens-là, ils sont venus. Après, j'ai eu la chance aussi d'avoir deux personnes, deux artistes qui ont partagé tout de suite parce que je les connais personnellement, qui est DJ Kim de RFM et l'humoriste qui est devenu un frérot, Kevin Razi. Tu vois, à l'époque, j'avais fait une petite vidéo avec lui et tout, donc on se connaissait. Et ça a été le premier à partager la vidéo recherche. Et du coup, ça a fait un effet boule de neige sur Internet.
La force des réseaux sociaux, t'en parles aussi.
C'est ça, la force des réseaux sociaux. Et c'est ça aussi qui a fait que quand j'ai retrouvé ma fille, j'ai fait une vidéo pour prévenir tout le monde qu'il fallait arrêter de chercher ma fille. Et sur le trajet, la vidéo, elle a atteint les 300 000 vues du tout retour de là-bas à Paris. Comme c'était
tout le monde était en haleine à savoir.
Moi, je me suis pas rendu compte de l'impact qu'il avait à ce moment-là, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai un papa qui m'appelle quand je suis sur le retour à Paris. J'étais sur la route. J'ai un papa qui m'appelle, Dominique, et il me dit, ma fille a disparu. Je suis content pour ta fille que tu l'aies retrouvée, j'ai vu ta vidéo. Mais j'ai ma fille qui a disparu, je sais pas quoi faire, les filles qui s'en foutent, quoi.
Ouais.
Et c'est là que je lui dis, écoute, moi, là, je viens de retrouver ma fille, donc je peux pas repartir sur le terrain tout de suite. Mais je peux partager la photo de ta fille en disant qu'elle aussi, elle a disparu. Et c'est ce que j'ai fait. On a retrouvé sa fille le lendemain à Séville, en Espagne, quoi, tu vois.
C'est
et
à encore ce moment-là que tu t'es dit.
Non, même pas encore.
Non, c'est pas
à ce moment-là, je me suis encore rien dit encore.
D'accord. Toi, tu mais savourais le fait d'avoir retrouvé
pour
ta
l'instant,
fille.
Pour l'instant, j'étais dans mon truc où on avait retrouvé ma fille. On a retrouvé aussi la fille à Dom. Donc, du coup, je suis même parti chez Dominique le lendemain pour aller rencontrer sa fille, pour lui parler vraiment des dangers de partir comme ça et tout.
Tu as le stress qui retombe et tout.
Ouais, ouais.
Ouais, t'as le truc, il faut que tu prennes ton temps de récupération et tout.
De gérer ça, ouais.
Et après, par la suite, une semaine après, c'est l'un des mecs qui m'a aidé à retrouver ma fille qui m'appelle. On l'appelle Mougli. Il m'appelle, il me dit, Béor, je suis en Hesse là, ma cousine, elle a disparu, on sait pas où elle est, ma tante, elle pète un câble. Je dis, j'arrive. Du coup, je prends le reste de l'équipe, on y va. Et là, on retrouve sa cousine le lendemain. Et là, on s'est dit, il y a un problème. Tu vois, c'est là qu'on s'est posé. Il y avait moi, il y avait ma femme, il y avait Teteuch et Cassandra. C'est vraiment le noyau dur de la LDA, tu vois, il est vraiment les fondateurs, quoi. Et là, on se dit, il y a un truc à faire, quoi. Et là, je leur dis, écoutez, venez, on crée un collectif, on aide les gens, quoi. Mmh. Juste, même si c'est juste pour partager au début, quoi. Mmh. Tu vois, finalement, on n'a rien partagé du tout. Ça a été partage, mais terrain
action,
tout de suite, direct.
Ouais.
Et là, on s'est dit, on va aller chercher ces jeunes-là qui ne passent jamais à la télévision, qu'on on fait pas attention à eux.
Ouais.
En vrai, c'est des anonymes. Donc, du coup, c'est pour ça que d'où vient le nom, les disparus anonymes. Mais parce que c'est des jeunes à qui on fait pas attention, normalement, quoi.
Et on peut se dire, ça peut arriver à tout le monde, en réalité. Mmh. Parce que quand on voit, malgré le fait que, voilà, tu faisais attention à ta fille, enfin, t'étais tout le temps au téléphone avec elle, tu lui racontais, ça arrive à tout le monde.
Ça va très vite, hein. Je travaille avec des enfants et ça va super vite, hein. Gamin, tu tournes la tête deux secondes, il est plus là. Hein.
Ouais.
La preuve que ça peut arriver à n'importe qui, une fois, on avait une adolescente qui avait disparu. On cherche, le papa il nous appelle, du coup on fait la vie de disparition, on la cherche, on la trouve, on lui ramène. Et là il me dit quoi? Il me dit, Béor, j'ai un truc à t'avouer. Je dis quoi? Il me dit, je suis flic. Je dis, mais comment ça t'es flic? Il me dit, je suis policier. Je dis, mais tes collègues, je sais pas, moi vous êtes pas solide. Il me dit, j'ai plus confiance en toi qu'en mes collègues. Imagine-toi. La solution aujourd'hui pour décharger le travail de la police, il est très très simple. On prend un local sur trois villes. On va prendre trois villes qui sont collées. On va aller dans le 93 par exemple, on va prendre une ville comme Bobigny, Drancy, Le Bourget qui sont des villes collées les unes aux autres. On prendrait un local sur l'une des trois villes et on prendrait une personne de chaque ville. D'accord? Ça veut dire qu'on prend un local qui va servir les trois villes et on va prendre une personne qui va être employée par chacune des mairies et qui va travailler dans ce local-là qu'on va former et qui va faire ce travail de filtrage. Ça veut dire que ce sera un bureau officiel de la LDA. Où les gens peuvent venir,
signaler une disparition. Et après, les agents qui sont sur place, donc les personnes de la LDA qui sont sur place, ils vont en parlant avec la personne et en menant les premières enquêtes, dire si c'est une fugue, si c'est une disparition inquiétante ou pas. Maintenant, si c'est une disparition vraiment qui s'avère être inquiétante et que c'est vraiment un danger, avoir une ligne directe avec le commissariat pour les prévenir directement. Donc ce travail-là, nous, on peut le faire.
Le filtrage, ouais.
Voilà, le filtrage, c'est très très important. Parce que eux, le problème quand tu arrives dans un commissariat, pour eux, tout est une fugue. Tu peux leur dire, non, mon enfant, il n'est pas comme ça. Ils vont dire, ouais, mais bon, tous les parents disent la même chose.
J'ai envie de clôturer l'émission là-dessus, Béor. Qu'est-ce que t'en penses? Béor était avec nous. Béor, Beaux-Arts Industries, on va te suivre. On a hâte, en tout cas, que ton application sorte. Et nous, on va relayer tes informations. Et Eden, merci.
Bah, merci à vous.
À très vite. Ouais, peut-être sur le Val d'Oise. Toi, tu es val d'Oisien, donc.
À côté, on n'est pas très loin, on est voisins.
T'es pas loin. Donc, je répète, le livre est disponible. Alerte disparition, disponible partout. Allez vous le procurer. Hein, on peut l'acheter sur Amazon, sur Internet. Et allez suivre, bien évidemment, la LDA, le compte.
Les disparus anonymes partout sur tous les réseaux sociaux. BR officiel, où on peut me joindre aussi si on n'arrive pas à me joindre via la LDA, le disparu anonyme. Et juste pour clôturer, n'oubliez pas qu'on fait notre reportage qui est très important, qui est Regard de banlieusard. Donc tous ceux qui veulent participer, on est ouvert, on est open. Donc vous pouvez nous contacter directement avec via les réseaux sociaux, que ce soit Eden
officiel sur Instagram,
voilà. Eden officiel et Béor officiel. Vous pouvez nous joindre et nous envoyer un petit message si vous voulez vraiment participer comme étant un acteur de la banlieue.
De la banlieue, ou voilà, faire un témoignage.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Du coup, on se quitte avec du Big Mom.
Exactement,
Big Mom. C'est le
meilleur pour la fin.
Single Full Skunk.
Qui est disponible aussi
partout. Disponible sur toutes les plateformes et le clip est dispo sur YouTube pour aller voir. C'est tout chaud, tout sucré.
Merci à tous. Belle journée.
Ciao.
À bientôt. Salut,
Axel. Salut, Sabrina.
Comme des pins, je vais les faire tous.